À l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, au large des îles Chagos, il est 22h, 18h à Paris.
Le journal, en français facile.
Adrien Delgrange.
Nous sommes le jeudi 22 mai. Au sommaire de cette édition, les conséquences de la guerre entre Israël et la Palestine. Aux États-Unis, deux membres de l'ambassade israélienne ont été tués près du musée juif de Washington. Pendant ce temps-là, l'armée israélienne continue de bombarder Gaza. Au moins 52 Palestiniens sont morts depuis les premières heures du jour. En réponse, cette fois-ci, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Allemagne a décidé aujourd'hui d'installer une base militaire en Lituanie. 5000 hommes vont être déployés. Nous sommes à Vilnius dans un instant. Et puis enfin, une information sportive qui ne manquera pas d'intéresser les auditeurs de Radio Foot International à suivre juste après ce journal. Le joueur Luka Modric, 39 ans, quitte le Real Madrid. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Nous commençons ce journal dans l'océan Indien pour vous parler de l'archipel des Chagos, un ensemble d'îles où vivent environ 3000 personnes. Depuis 1965, l'archipel des Chagos appartenait au Royaume-Uni, mais il avait été séparé de l'île Maurice. Nous retrouvons pour parler des îles Chagos notre correspondante à Londres, Emeline Vin, bonjour.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Londres a décidé de restituer, de rendre les îles Chagos à l'île Maurice avec une condition.
Oui, le Royaume-Uni renonce à sa souveraineté sur les îles Chagos au profit de Maurice, mais conserve tout de même sa base militaire sur Diego Garcia, l'île principale de l'archipel. Cette base, partagée avec les États-Unis, sera en fait louée à l'île Maurice pour un peu plus de 100 millions d'euros par an et pour une durée de 99 ans. Le Premier ministre Keir Starmer assure qu'il s'agit d'une utilisation raisonnable de l'argent des contribuables et que la restitution de la souveraineté était devenue inévitable sans s'exposer à des poursuites devant les instances judiciaires internationales. L'opposition, elle, dénonce une renonciation diplomatique. L'accord a bien failli ne pas être signé comme prévu ce jeudi. La Haute Cour de justice a validé cette nuit un recours de la part de deux habitantes de l'île de Diego Garcia qui s'estiment lésées par cet accord. Recours finalement rejeté jeudi après-midi. Le Royaume-Uni et l'île Maurice ont donc signé le texte lors d'une cérémonie virtuelle. Le Parlement britannique a 3 semaines pour s'opposer à l'accord, sans quoi il sera automatiquement ratifié.
Merci Emeline. Emeline va en direct de Londres pour RFI. Et à l'instant, suite à la signature de cet accord sur les îles Chagos, le Premier ministre mauricien vient de réagir et évoque une grande victoire pour Maurice. Venons-en à cette attaque mortelle la nuit dernière aux États-Unis, à l'extérieur du musée juif de Washington. 2 morts. Un homme a tiré sur 2 employés de l'ambassade israélienne aux États-Unis. Le tireur a crié « Libérez la Palestine » après avoir été arrêté et placé en garde à vue, d'après la chef de la police de Washington. Nous restons aux États-Unis pour évoquer cette décision importante qui illustre la séparation de l'Église et de l'État dans la gestion du pays. La Cour suprême américaine, la plus haute juridiction des États-Unis, a refusé d'autoriser la création d'une école religieuse financée sur des fonds publics. Explication avec vous, Carlotta Morteo.
Une école publique financée par le ministère de l'Éducation, mais dirigée et administrée par une organisation religieuse, en l'occurrence l'Église catholique, ce projet d'école dans l'État conservateur de l'Oklahoma aurait été une première aux États-Unis, où les écoles confessionnelles sont exclusivement des écoles privées. La Cour suprême a confirmé l'interdiction de cet établissement par la justice de l'État de l'Oklahoma qui avait invoqué le premier amendement de la Constitution, c'est-à-dire le principe de neutralité de l'État vis-à-vis des religions. Alors même que ces dernières années, plusieurs décisions de la Cour à majorité conservatrice avaient été relativement favorables aux institutions religieuses, à l'image de l'administration Trump qui soutient ouvertement ce projet d'école. Mais la séparation entre Église et État a prévalu. À un fil, toutefois, les juges étaient divisés, 4 voix pour et 4 voix contre. Ce n'est donc pas un avis complet qui fera jurisprudence, mais une brève ordonnance. La question pourrait donc revenir devant les juges dans une prochaine affaire.
RFI à Paris, 18h05. En Chine, des coulées de boue, des glissements de terrain survenus dans des zones isolées de la province montagneuse du Guizhou, située au sud-ouest de la Chine, a provoqué la mort d'au moins 4 personnes. 17 autres personnes sont portées disparues. L'actualité en Europe, Friedrich Merz est en Lituanie. Le chancelier allemand est arrivé dans la capitale lituanienne, Vilnius. Le chef du gouvernement allemand vient officialiser l'arrivée de matériel de guerre dans ce pays, blindés, chars et autres armements allemands, sans compter le nombre de militaires, jusqu'à 5000. Ils stationneront désormais en Lituanie. Et c'est la toute première fois que Berlin envoie des troupes de manière permanente à l'étranger. Un déploiement décidé après le début de la guerre en Ukraine. À Vilnius, reportage Marielle Vituro.
C'est une journée historique, s'est réjoui le président lituanien Gitanas Nauseda. Aujourd'hui, les soldats allemands sont 350. D'ici la fin 2027, la brigade déployée pour une durée indéterminée en comptera 5000. Ils seront tous là pour assurer la sécurité, a rappelé le chancelier allemand Friedrich Merz.
La situation dans les pays baltes, sur le flanc est de l'OTAN, reste très tendue. La Russie, telle qu'elle se présente aujourd'hui, est une menace pour nous tous. C'est contre cette menace que nous nous protégeons et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui.
La ville de Vilnius tout entière s'est mise à l'heure allemande. La télévision publique a diffusé la cérémonie et les bus de ville rappellent que la Lituanie aime l'Allemagne. Le jeune étudiant Karolis inspecte les tanks allemands exposés sur la place de la cathédrale.
Je suis heureux que l'on vienne nous défendre. Notre voisin russe continue d'agresser l'Ukraine et nous n'avons plus de temps de répit.
Avec cette brigade allemande en Lituanie, le chancelier Friedrich Merz veut aussi envoyer un message au reste des Occidentaux. Il faut faire plus pour la défense et le faire de manière unie. Marielle Vituro, Vilnius, RFI.
L'actualité en France, c'était une liste attendue depuis des mois. La liste actualisée des métiers en tension a été publiée ce matin au journal officiel par le ministère de l'Intérieur. Alors cette liste de métiers dits en tension détermine environ 80 professions pour lesquelles les employeurs en France ont du mal à recruter du personnel, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de la santé, de l'hôtellerie ou de la restauration. Et donc cette liste des métiers en tension ouvre aussi la voie à une régularisation, à l'obtention de papiers pour les travailleurs étrangers qui exerçaient jusque-là ces activités illégalement. Cette liste a été pensée en France région par région. Les métiers concernés ne sont pas les mêmes selon les territoires pour répondre au mieux à la demande. Pour Gérard Rey, secrétaire confédéral du syndicat la CGT, le compte n'y est pas.
Si je prends par exemple la région parisienne, c'est quand même là où se concentre le plus de travailleurs dits sans papier, qui interviennent par exemple dans la restauration sur la région parisienne. On a effectivement cuisiniers et employés de l'hôtellerie. Or, on a beaucoup de travailleurs sans papier, tout le monde le sait, qui sont par exemple des plongeurs. Ça n'apparaît pas. N'apparaissent pas non plus les serveurs. Et puis n'apparaissent pas les métiers aussi de la logistique, qui concentrent là aussi une très forte proportion de travailleurs sans papier. N'apparaissent pas les métiers du nettoyage. Donc on voit bien quand même que cette liste a été construite pour justement restreindre au maximum les possibilités de régularisation par le travail, elle ne tient absolument pas compte de la réalité du travail migrant dans notre pays.
Gérard Rey du syndicat, la CGT. Et puis enfin, le moment est venu. Samedi prochain, je jouerai mon dernier match au Santiago Bernabéu. Les mots de Luka Modric. 39 ans, le milieu de terrain croate du Real Madrid a annoncé aujourd'hui qu'il quitterait le club madrilène samedi prochain. Merci à tous d'avoir écouté ce journal RFI à Paris, 18h10.